Vous écoutez France Culture.
Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Nous prendrons dans ce journal d'abord la mesure de la mobilisation des Gilets jaunes ainsi que de l'évolution de leurs revendications. Elles se précisent de jour en jour. Sarah Maquet est sur les Champs-Élysées où des heurts ont éclaté ce matin avec les forces de l'ordre de nombreux points de blocage en province. Des OGM récemment interdits par les autorités européennes et jugés dangereux car résistants aux antibiotiques sont disséminés dans une grande quantité d'aliments pour le bétail en Europe, en vedette la riboflavine. Précision d'Anne Lorchouin. Enfin, la Bulle Écho prend les devants. Ce samedi, la Cour des comptes s'apprête à sortir un rapport sur le mécénat d'entreprise. Explication en fin d'édition de Marie Viennot. Mais tout d'abord, à la veille d'une journée internationale de mobilisation pour l'élimination des violences faites aux femmes, une cinquantaine de collectifs français appellent les citoyens à faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils se dotent de moyens à la hauteur de ces enjeux complexes. Quand les victimes, après avoir redoublé d'efforts pour verbaliser leur souffrance, livrent leur témoignage à la justice, elles n'obtiennent pas toujours réparation. À cet égard, nous vous proposons un extrait de l'entretien qu'a donné ce matin à Caroline Brouet, Manon Garcia, philosophe féministe.
Il y a une espèce de série là entre la remise en liberté de sous condition de Tariq Ramadan, l'acquittement de Georges Tron, les 4 mois avec sursis d'Ibrahim Malouf, et là le cas en Normandie là de cet homme qui a été acquitté pour viol et son avocat avait dit que on pouvait pas considérer qu'il y avait une intention de violer en raison du fait que cet homme n'avait pas les codes culturels qui lui permettaient de comprendre que c'était un viol. Bon, c'est vrai que on a l'impression que chaque jour apporte une nouvelle impunité, une nouvelle remise en cause de la parole des femmes qui portent plainte. Enfin, c'est
vous pensez que ça fait mal au mouvement féministe ?
Je pense pas que ça fait mal au mouvement féministe, mais je pense que ça fait mal aux femmes féministes de voir ça chaque jour.
Voilà, 8e jour de mobilisation des Gilets jaunes avec 2 grands axes à isoler en cette mi-journée. Cadenas et verrous sur le réseau routier en province. Lieu de pouvoir et d'histoire à Paris. Le ministère de l'Intérieur avait prévu un lourd dispositif autour de la place de la Concorde. Il est en place et des échauffourées ont éclaté dans ce petit périmètre épicentre du pouvoir, sanctuarisé par la préfecture. Bonjour Sarah Maquet.
Bonjour.
Sarah, que s'est-il passé là où vous vous trouvez ?
Alors écoutez, sur les Champs-Élysées, jusqu'à midi environ, les Gilets jaunes se réunissaient tranquillement, plusieurs milliers de personnes entre les métros Roosevelt et Georges V, donc on parle d'une foule qui s'étendait à peu près sur 800 mètres. Et puis, il y a une demi-heure, il est très difficile de savoir voilà qui a vraiment lancé le premier projectile ou la première grenade lacrymogène, mais un point de fixation s'est créé au milieu des Champs-Élysées, d'un côté grenade lacrymogène et pompe à eau et jet d'eau, de l'autre côté projectiles, barrières mises, barricades un peu improvisées au milieu des Champs-Élysées, et depuis en fait une opération d'évacuation est en cours et donc les forces de l'ordre remontent petit à petit ces Champs-Élysées en dispersant la foule. Alors il y a beaucoup d'incompréhension, en tout cas des Gilets jaunes me disaient voilà, on comprend pas trop qui est devant, qui a commencé, ce qui se passe. Notre message, ce n'est pas celui-là. Nous, on continue. Ils partent ailleurs. Ils essayent de rejoindre d'autres manifestations. Et ici, c'est toujours un peu chaotique au niveau de la situation pour l'instant. Moi, j'ai rencontré par exemple Cyril, 24 ans, qui est venu de Savoie et qui en pleure après les gaz lacrymogènes me dit voilà, je voulais juste apporter un message pacifique et je comprends pas ce qui s'est passé il y a une demi-heure maintenant au niveau des Champs-Élysées.
Merci à vous Sarah Maquet. À l'instant, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner prétend qu'il y a 8000 manifestants à Paris, 23000 dans toute la France. Et s'agissant de Paris, le ministre de l'Intérieur dénonce, je cite, les séditieux d'ultra-droite qui ont répondu à l'appel de Marine Le Pen. Aux côtés des manifestants, non loin de la place de la Concorde, député insoumis François Ruffin, que nous avons en ligne. Bonjour François Ruffin.
Bonjour.
François Ruffin, venir à Paris, c'est quoi ? C'est enraciner le mouvement ?
Je sais pas, moi, le mouvement, il vit sa vie. Moi, je sais pourquoi je suis là. Je suis là parce que c'est une France que d'habitude on voit pas, qui aujourd'hui a décidé de se rendre visible avec des gilets jaunes et de monter jusqu'à Paris. Par exemple, moi, je suis monté dans le car, là, à Albert. Il y a une dame de Flixecours, Janine de Flixecours. Elle vit avec 1100 euros de retraite. Elle me dit, moi, le 15 du mois, je mange du lait avec des céréales. Et surtout, je peux pas aller voir ma fille qui est étudiante à Troyes et qui galère elle aussi. Il y a un artisan terrassier qui se demande comment il va survivre au mois de janvier avec la hausse du gasoil. On a a une auxiliaire de vie sociale, une qui s'occupe des personnes âgées à domicile et qui, elle, galère complètement à 800 euros par mois. Voilà pourquoi je suis là. C'est pour accompagner ces gens-là qui, d'habitude, restent dans leur coin, se taisent et qui, là, non seulement se font entendre, se font voir, mais décident de se faire voir jusqu'à Paris parce que, comme Macron a l'air un peu sourd, il faut qu'on aille lui crier dessus au plus près possible. Quoi.
François Ruffin, ces réalités sociales, on les découvre pas. Là, elles s'agglomèrent. Qu'est-ce que ça peut sécréter? Quel projet proposer? À quelle proposition s'attendre?
Vous savez, ça peut donner. Il est évident que ça peut donner le meilleur comme le pire. Mais enfin, ce que je vois, moi, je suis passé avant-hier sur le rond-point d'Albert. C'est quand même une grande générosité de ces gens qui se retrouvent autour d'un bras zéro. Et qu'est-ce qu'ils viennent dire? Ils viennent dire, c'est pas juste qu'il y ait des millions et des milliards qui soient donnés en haut quand nous on est en train de galérer complètement en bas. Il y en a qui se gavent et nous on galère. C'est ça le message général. Le message général qu'il faut entendre, c'est un désir de davantage d'égalité, davantage de fraternité et davantage de justice sociale. Je pense que ce qui est la base du mouvement, c'est un désir de justice. On ne peut pas donner des milliards aux riches en supprimant l'USF et en même temps imposer la CSG sur les retraités, retirer de l'APL sur les modestes locataires et que ça continue avec, par exemple, là, le gasoil. C'est pas possible pour les gens. Et moi non plus, je n'arrive pas à le comprendre. Ça fait 18 mois que je n'arrive pas à comprendre qu'on mène une politique aussi injuste, aussi évidemment injuste, et qu'il s'y rajoute en plus l'arrogance de l'injustice avec les gens qui ne sont rien, avec les Gaulois réfractaires, avec ceux qui n'ont qu'à traverser la rue. C'est un orgueil de peuple blessé aussi qui se réveille aujourd'hui.
François Ruffin, dernier point, c'est donc contre la centralisation du pouvoir et pour un peu plus de justice sociale, au risque que la fiscalité verte passe par perte des profits?
C'est pas possible de démarrer l'écologie en commençant par taxer les plus pauvres. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous produisez un divorce entre le peuple et l'écologie. Et c'est absolument pas ce que je veux. Quand on sait que les 20% les plus riches émettent en carbone à peu près 2,5 fois plus que les foyers modestes. Et aujourd'hui, ce sont les modestes qu'on tape. Donc il faut revoir une autre vision de l'écologie. Moi, ce que je demande, ce que Macron fasse, c'est un, il remet les ISF, parce que c'est une mesure de justice sociale, c'est une mesure symbolique, mais aussi qui pèse 4 milliards d'euros. Paf, première chose. Deuxièmement, il retire sa taxe sur le gasoil, qui, on voit, heurte la France rurale, notamment la France périphérique. Et troisième point, il faut qu'il arrête le crédit impôt compétitivité emploi et qu'il fasse basculer 20 milliards d'euros sur la transition écologique et notamment sur la rénovation thermique. Et comme ça, vous aurez les gens, leurs factures de gaz et d'électricité, elles vont baisser. Et d'autre part, c'est quand même le chauffage qui est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre dans ce pays. Donc c'est là-dessus qu'on peut jouer le plus. Et ça serait, à la place d'être une écologie punitive pour les plus pauvres, ça apparaîtrait comme une écologie positive pour eux.
Merci à vous, merci François Ruffin d'avoir accepté notre invitation. Les défis écologiques suite des OGM récemment interdits par les autorités européennes et jugés dangereux car résistants aux antibiotiques sont disséminés dans une grande quantité d'aliments pour le bétail en Europe. C'est une information que l'on doit à nos confrères du journal Le Monde. Selon des documents confidentiels des services sanitaires néerlandais, entre 800 000 et 1,6 million de tonnes d'aliments pour animaux d'élevage sont potentiellement contaminés par un additif alimentaire, la riboflavine, aussi connue sous le nom de vitamine B2, pour l'instant, Anne-Laure Chouin, les autorités sanitaires françaises n'ont pas lancé d'alerte particulière.
La conclusion de l'Agence européenne de sécurité alimentaire est sans appel. Dans un rapport publié le 26 mars dernier, elle explique que la vitamine B2, produite à partir de la souche génétiquement modifiée d'une bactérie, présente un danger pour les espèces animales, les consommateurs et l'environnement. Parce qu'elle présente, cette vitamine B2, des caractères de résistance aux antibiotiques, même caractère qui pourrait infecter ceux qui la mangent, les animaux, et ceux qui mangent ces animaux, les consommateurs. Avec pour conséquence principale la difficulté à soigner des infections dues à cette antibiorésistance. Un scandale sanitaire qui pourrait concerner une bonne partie de l'Europe. Ces stocks de vitamine B2 génétiquement modifiés, qu'on appelle aussi riboflavine, auraient été importés de Chine par une société implantée aux Pays-Bas, puis distribués aux Pays-Bas, en Pologne, en Italie. Le seul stock écoulé en Pologne a pu servir à fabriquer potentiellement 500 000 tonnes d'aliments pour bétail, stock entièrement consommé. Depuis cette alerte de l'EFSA, l'agence européenne, c'est la course pour sortir du marché ces stocks dangereux. En Italie, ce sont 500 kilos qui ont été écoulés, 5 000 kilos aux Pays-Bas, au total donc des millions d'animaux contaminés. D'autres pays pourraient être touchés, la France notamment. C'est un laboratoire allemand qui a identifié identifié cette antibiorésistance issue d'OGM en 2015. Avant cela, en 2013, l'EFSA n'avait rien trouvé à redire sur cette vitamine B2, ce qui pose la question des méthodes de détection, surtout quand on sait que d'autres vitamines sont produites par modification génétique.
Le ministère malien de la Défense a confirmé ce matin l'élimination par les troupes françaises de la force Barkhane d'Amadou Koufa, influent prédicateur radical, ciblé dans la nuit de jeudi à vendredi dans son antre, la Katiba d'Ansardine du Massina, dans le centre du pays. Les Bahreïnis sont appelés aux urnes aujourd'hui pour choisir leurs représentants au Parlement, un scrutin sans véritable enjeu politique, tant la situation locale est verrouillée, d'autant plus que les Occidentaux ont les yeux tournés vers d'autres dossiers régionaux. Il est 12h40, un peu plus de 12h40, c'est l'heure de la Bulle Écho. La Cour des comptes s'apprête à sortir un rapport sur le mécénat d'entreprise. Y aurait-il eu des abus? Marie Viennot, vous nous livrez quelques conclusions.
Ah oui. Nous sommes au bois de Vincennes, la nuit de l'inauguration de la Fondation Vuitton en 2014. Le musée sculpture s'illumine, le président d'alors François Hollande s'extasie et l'architecte Franck Guéry s'émeut que ce musée ait été offert par Bernard Arnault, le patron de LVMH, à la ville de Paris. Offert, le mot est un peu fort, car l'État a aussi beaucoup participé. Il n'a pas dépensé d'argent, mais il a collecté moins d'impôts, ce qui revient un peu au même. On appelle ça une dépense fiscale, plus connue sous le nom de niche fiscale. C'est le principe du mécénat en France. Quand une entreprise fait un don, elle peut déduire 60% de ce don de son impôt sur les bénéfices. Le dispositif existe en France depuis 2003 et cela marche du tonnerre. Au début, 6500 entreprises étaient mécènes, aujourd'hui près de 70 000. Or, plus cela marche, plus cela coûte cher en non-rentrée fiscale. Le montant total avoisine aujourd'hui les 900 millions d'euros par an, 12 fois plus qu'il y a 15 ans. À la demande de parlementaires, la Cour des comptes s'est donc penchée sur cette niche fiscale très spéciale. Premier constat, le mécénat est concentré sur les très grandes entreprises. Les 24 premiers bénéficiaires représentent 44% de l'avantage fiscal total. Et à ce titre, la Fondation Vuitton se taille la part du lion. Les magistrats de la Cour ont étudié ce cas et les Échos l'ont rapporté en avant-première, même si le propriétaire du quotidien n'est autre que LVMH, ce qui vaut la peine d'être souligné. Chaque année, donc, pendant les 11 années qu'a duré sa construction, la Fondation Vuitton a absorbé 8% des réductions d'impôts consenties par l'État au titre du mécénat pour toutes les entreprises. Le chantier a coûté 790 millions d'euros. Grâce à lui, LVMH a économisé 500 millions d'impôts et beaucoup fait parler de l'entreprise, en bien et sans budget publicitaire.
Son succès sera celui de la France tout entière. Merci.
60% de déduction fiscale pour les entreprises, pour les particuliers c'est 66%, mais les entreprises mécènes ont aussi des contreparties. Places gratuites, soirées réservées, les dons en nature peuvent aller jusqu'à 25% du don. Pour ces deux chiffres, 60%, 25%, la France est l'un des pays les plus attractifs au monde pour les mécènes. Que ne ferait-on pas pour l'art dans notre pays? N'allez pas croire cela. D'abord, un don défiscalisé en France peut financer un musée à Amsterdam ou partout en Europe. Et surtout, ce qui draine le plus les dons des mécènes, c'est le social. La culture arrive derrière, juste avant l'éducation. Alors le social, ce sont notamment les dons alimentaires. Les entreprises de la distribution donnent leurs produits frais en fin de vie à des associations, mais elles valorisent ensuite ces produits à leur coût de revient, puis déduisent 60% de leurs impôts. La valorisation est donc clé. Elle l'est aussi pour le mécénat de compétences, une pratique qui se développe beaucoup. Un de vos salariés va donner des conseils dans une association sur son temps de travail. C'est un don valorisé, défiscalisé et sujet à beaucoup d'irrégularités, remarque la Cour des comptes. La Cour ne remet pas en cause l'utilité du mécénat. Mais dans la synthèse que j'ai pu consulter, elle s'interroge. Le suivi de l'État se révèle presque inexistant, lit-on. Il n'y a pas d'évaluation, pas de contrôle, pas de réflexion sur les transformations du mécénat et ses nouvelles fonctions. Aujourd'hui, chacun cherche son mécène, musée d'État, association reconnue d'utilité publique, collectivité locale même, qui de plus en plus crée des fondations. En réduisant ses subventions, sa participation, ses dotations, l'État encourage cet appel au mécène qui, au final, lui coûte de plus en plus d'argent sans qu'il puisse maîtriser combien ni comment. Il y a en effet matière à réflexion.
Ainsi se referme la bulle éco. Merci à vous, Marie Viennot. Quelques mots de la météo. Vigilance orange dans le Gard, avec des risques de crues et d'inondations, des orages sur la Corse, de la pluie à l'ouest d'une diagonale qui va du nord à la Gironde, à un grand soleil le long de la Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy, à la technique Anthony Thomasson.